sert.
Ouais, enfin, bon, donc, pour cette rentrée, nous proposons une petite recette. Et pas piquer des hannetons.
Dis-moi, mais je suis tout oui pour cette recette.
Alors, il vous faut 350 g de pâte, 90 g de piacel radieux, un œuf, 15 centilitres de béton brut, 50 g d'architecture suisse, une pincée de sel et une pincée de poivre.
Et voilà, vos pâtes à la corbue sont prêtes.
Et si Radio On n'était pas Radio On?
Et si Radio On était un tabouret?
Alors, bonsoir. Je voudrais dédier la chanson qui suit, Even, par The Blaze, à trois personnalités disparues en cette rentrée. Paul Virilio, pour son architecture massive et défensive à Banlay. Paul Andreu, l'un des plus grands architectes français, auteur du chef-d'œuvre de Roissy. Et enfin, à mon très cher Didier Mouchel, critique de photographie contemporaine, inventeur et sauveteur de fonds photographiques, amoureux des images, défenseur des artistes. Salut les amis. Eh bien, nous n'écouterons pas ce morceau, Yvonne, de The Blaze. C'est pas grave, je pourrais presque vous la chanter, mais je pense que je vais vider la salle. Donc je vais entamer sur ma chronique corbusienne. Chers étudiants, chères étudiantes, chères auditrices, chers auditeurs, chers collègues, chers amis ukrainiens. Lorsque Miguel Mazry me força gentiment à faire un article sur l'architecture en Ukraine, j'ai vu mon cerveau m'envoyer des images que je ne maîtrisais pas. Les noms propres et surtout ceux de localisation, de pays, ont cette propension à vous faire fabriquer des images que l'imaginaire commun ou individuel construit sur une culture parfois pointue, parfois souvent bien légère. Comment donc résonne ce nom d'Ukraine pour moi? D'abord, l'Ukraine résonne bien évidemment comme un ex-pays soviétique, une certaine vision de la ville souvent très organisée, forte, bétonnée, aux couleurs délavées comme nous en sert le cinéma occidental, sachant produire un effet d'espace avec un vieux camion fatigué, une route défoncée, des costumes militaires hors d'âge. Avons-nous trop regardé de James Bond? Mais pour moi, amateur de brutalisme, l'architecture soviétique est d'abord un rêve, un fantasme, celui d'une autorité intransigeante, laissant les formes exprimer cette capacité autoritaire à ne rien céder. Même si le soviétisme a rompu rapidement avec la belle révolution constructiviste, reste que, en Ukraine, comme ailleurs, sur cet empire, une certaine architecture a su faire école et que depuis peu, celle-ci semble trouver un écho favorable, au moins chez nous, comme si nous pouvions soudainement arpenter une nostalgie rétro-futuriste, enfin ouverte, une sorte de Disneyland de l'étrangeté architecturale, en comparaison desquelles la croix de Lorraine géante de De Gaulle à Colombey, monument mégalomaniaque à la française, fait pâle figure. La bible de cette découverte est celui qui en inventa le genre, eh bien Frédéric Chopin, avec son ouvrage CCCP, qui nous fait faire un grand tour de cet héritage de l'architecture puissante construite dans la période que nous appelons, nous, en France, les Trente Glorieuses, disons pour nos amis ukrainiens, de Brejnev à Gorbatchev. Remercions Frédéric Chopin d'avoir ainsi, de ville en ville, fabriqué un patrimoine qui d'ailleurs propose une homogénéité non pas tant de style, mais que d'un... pardon, non pas tant des styles, que d'un goût certain pour la monumentalité, nous permettant de bien saisir l'étendue de l'Empire aujourd'hui disparu. Je signale que ce livre ne fut pas publié au début des années 90, mais bien en 2011, ce qui est juste incroyablement tardif. Écoutons Chopin. Alors je vais vous lire un petit extrait du livre de Frédéric Chopin. Voilà le livre, alors je le montre à mes très nombreux publics énormes. Ce soir, il y a 10 000 personnes dans la salle à peu près, au moins. Je vais vous lire un petit extrait, un tout petit, hein, c'est pour vous donner une coloration à ce livre. Alors, j'y vois rien du tout. Voilà, j'espère que vous allez m'entendre. Merci. Un champ d'investigation s'ouvrait, ainsi que le début d'un jeu. Les règles en étaient simples, dénicher les manifestations hétéroclites de cette architecture différente, produire un effet de masse en épinglant méthodiquement, l'un après l'autre, ces bâtiments particuliers. Le monde soviétique était vaste, l'aventure offrait prétexte à voyager. Je ne recherchais pas des objets formatés ou répertoriés, mais une forme d'extravagance que j'étais le seul à cerner. Une puissance de rêve que j'avais le désir de souligner par l'image. Et c'est avec ce plaisir que je me suis engagé dans la brèche. non seulement l'occasion se présentait de tracer les contours d'une histoire qui n'a pas été écrite, mais encore et même, et pas encore écrite, pardon, mais encore et même d'un même regard. Il m'était offert de prendre à rebours ce lieu commun de la photo contemporaine que fut pendant 20 ans le monde soviétique. Plutôt que de l'aborder sous l'angle visuel de la décomposition, je lui préférais ses utopies. Voilà. Je reprends mon texte. Alors, s'il ne fait pas de doute que Chopin se place d'abord comme un photographe, ce qui fait surtout l'attrait de ce livre, c'est bien sa promenade. Pour ma part, je suis très réservé sur les qualités photographiques de l'artiste, préférant avant tout le remercier pour son inventaire. Vous l'aurez compris, je suis terriblement jaloux de ce travail et de son expédition. Chers amis ukrainiens, je vous le dis, je suis désolé que cet imaginaire vous confonde, vous lie à d'autres pays, et votre présence ici, maintenant, et les allers et retours probables de nouveaux échanges, nous permettront sans doute enfin de rompre avec mon approximation culturelle. Je m'excuse d'avance d'évoquer cette période dont parfois, malhabilement, nous sommes nous, ici, parfois nostalgiques, percevant dans la construction d'architecture brutale, déterminée, une puissance qui nous fascine, un peu comme la mangouste devant le cobra. Pourtant, je ne nierai pas mon goût, je ne ferai pas semblant de ne pas voir aussi dans cet héritage architectural un brutalisme franc et raide, mêlé d'une coloration régionaliste. Un exotisme en quelque sorte. Exotisme, oui, qui pour nous amateurs de béton reste un trésor que nous voudrions voir jugé et aimé, espérant un retournement de l'histoire de l'architecture, permettant à votre patrimoine de se maintenir dans le réel, en ne faisant pas trop vite une table rase de ces signes architecturaux très politiques. Mais avons-nous le droit d'exiger de vous cette nostalgie? Ainsi, par exemple, l'hôtel Salyut, à Kiev, par les architectes Miletsky, Slogotskaya et Tchenchenko, semble vouloir raconter ce désir de forme idéale, parfaite, régulière. Sans doute aussi que pour l'empilement nécessaire de logements, les formes les plus simples, les plus naturelles sont les plus efficaces. Là encore, le pragmatisme est à son comble, en n'oubliant pas d'ailleurs une vraie subtilité poétique, le geste simple mais bougrement efficace de décentrer la toiture du haut du cylindre qui permet immédiatement de faire bouger sous les yeux les formes géométriques, offrant un cinétisme particulier à ce qui pourrait passer trop vite comme une simplicité ou une facilité. On y reconnaît l'influence de Le Corbusier dans le dessin des balcons, suffisamment en rodant pour préserver l'intimité de la chambre. Est-ce là, dans cet hôtel, sur ces balcons, comme pour la cité radieuse de Corbu, le rêve de pouvoir y exercer un naturisme joyeux? Frédéric Chopin ne nous offre pas l'opportunité de pénétrer dans l'hôtel, nous laissant là aussi imaginer notre visite, arpentant les couloirs au milieu du cylindre, devenant de fait le lieu de toutes les rencontres, comme un centralisme puissant, regroupant toutes les utilités de la construction, cage d'ascenseur, faisceau électrique, conduite d'eau, etc. On s'imagine, ouvrant la porte de la chambre, porte forcément placée en face de la grande baie, et voir surgir soudainement le paysage encadré pour soi seul. Les pans de béton, posés comme des ailettes de chaque côté de la baie, produisent alors un effet de zoom, perspectif si cher à Claude Lautier, indiquant la future tranquillité de votre séjour et l'exclusivité de votre vue sur l'horizon de Kiev. Je m'excuse de prononcer Kiev encore à l'ancienne manière. Qui venait dormir là dans les années 80? Qui y vient aujourd'hui? Et si vous êtes amoureux, si le désir de déclarer votre flamme au monde entier devient une nécessité impérieuse, pourquoi ne pas fêter votre mariage dans l'incroyable palais des mariages de Kiev, construit et dessiné par les architectes Gopkalo et Gretchtin en 1981? Le bâtiment, triangulaire dans son plan, offre un toit en couverture inversée, remonté sur les trois pointes. L'entrée ouvre une baie géante sur toute sa hauteur, accentuant le dynamisme et permettant au mariage civil prononcé loin de l'église d'avoir lui aussi une dimension spectaculaire. La blancheur virginale de la construction, le jeu de ses courbes, sont-ils là pour évoquer la robe de la mariée? J'imagine aussi qu'il devait être bien impressionnant pour un jeune couple de venir là dire au monde son amour. La fonction éminemment symbolique d'une architecture de cérémonie, pourtant civile, raconte bien tout de même ce désir, ce besoin de la vie d'être jalonné de moments sociaux bien marqués et clairs. L'escalier sombre de l'entrée, vous élevant vers la porte et vers votre nouvelle vie, vous servira aussi de gradin pour vous faire photographier avec votre famille. Un palais. Un palais d'habitude, c'est pour les rois. Ici, la princesse d'un jour, la mariée, robe cousue du matin frais, mêlant la blancheur de son tissu à la neige tombée hier, accrochée par le bras à un frêle jeune homme qu'elle vient d'épouser, devra faire attention de ne pas laisser son escarpin sur les marches de l'architecture. J'espère que ce palais des mariages sert encore et qu'il servira longtemps. Je voudrais aussi manipuler doucement une autre fascination, celle pour un monde post-apocalyptique, post-nucléaire. Bien entendu, je voudrais évoquer Tchernobyl. En 1986, je me souviens parfaitement du bruissement des conversations le matin de l'explosion dans mon lycée. Je me souviens que certains camarades évoquaient une guerre nucléaire. Je me souviens de notre professeur d'histoire décidant d'évoquer l'accident au lieu de faire cours. Le drame de Tchernobyl, avant d'être une histoire fascinante, presque irréelle, tant elle fut une fiction parfaite, est un tombeau. Un tombeau. Tchernobyl, c'est d'abord le courage de ceux qu'on appela les liquidateurs. Aujourd'hui, une architecture incroyable doit pourtant venir clore ce drame en posant sur la centrale nucléaire un sarcophage qui ressemble bien plus d'ailleurs à un dôme technique d'un gymnaste ayant métastasé. Cette construction, dont l'esthétisme ne peut bien évidemment pas provenir autre chose que sa nécessaire et urgente efficacité, présente pourtant une séduction plastique évidente. L'énorme structure gigantesque vient en effet se glisser au-dessus de l'éventration, comme plusieurs ponts accolés ou comme plusieurs tours Eiffel courbées par le souffle nucléaire. La haute technologie, sa capacité à confiner les radiations, tout cela produit bien sûr une stupéfaction fictionnelle que le réel toujours plus fort vient déborder. Soyons fiers, cette technologie en est française, puisque c'est le groupe Vinci et Bouygues qui ont obtenu le marché de cette couverture. Ce chantier est proprement hallucinant par sa mission, mais aussi par son décor, et je suis de ceux qui aiment le génie civil lorsqu'il s'accorde la grâce de sa responsabilité technique. Mais que dois-je faire là encore de ma fascination ? Ai-je droit d'en aimer les forces ? Est-ce que ma fascination viendrait du frottement entre les capacités techniques des hommes à réparer et celle aussi de tout détruire ? Surtout ne pas faire de la beauté avec du drame, surtout ne pas tomber dans l'obscénité. Je ne viendrai pas voir, je ne ferai pas du tourisme sur le tombeau collectif aussi spectaculaire soit-il. Je ne viendrai pas à Tchernobyl ou en Ukraine, chers amis. Non pas, croyez-le bien, que j'en ai pas le désir, mais je suis de ceux qui regardent des images et de ceux qui construisent ainsi bien plus volontiers leur promenade architecturale. Pour profiter de ces beautés architecturales de l'Ukraine, je vous enverrai Louis le Père, qui sait prendre le risque, lui, de se confronter au réel. Il est des yeux des autres plus ouverts que les siens propres. Reste que définir l'architecture n'est pas forcément aller la voir, que la voix enregistrée des architectes, que leurs écrits, leurs plans, que les photographies bien analysées avec l'imaginaire comme outil permettent donc bien de voir et de parcourir le monde. Viendra un jour, les photographies de Frédéric Chopin seront les derniers témoignages de cette architecture, de ce qu'elle réifie d'une pensée. Je poserai alors le livre de Chopin sur mes genoux, je tournerai les pages et je partirai dans les images. Avec le mot « oubli », partir est finalement l'autre mot de la langue française que je préfère. Merci, bonsoir.
Merci David, on te laisse une petite assiette de pâte à la corbue dans le frigo.